Il a débuté jeudi dernier, le 23 octobre, et se poursuivra jusqu'à ce jeudi 30 octobre. Des centaines de soldats s'entraînent autour d'Angers, Saumur et Segré pour tester la coopération entre l'armée et les services civils en cas de crise majeure. Par exemple, une inondation, une panne géante ou une menace sécuritaire. Les habitants peuvent donc croiser des convois, des hélicoptères ou des patrouilles armées. Mais tout cela reste purement fictif et encadré. Ce type d'opération n'est pas rare. Un exercice similaire avait eu lieu en printemps dernier, en Nouvelle-Aquitaine, où des militaires avaient simulé une intervention après une tempête. L'armée profite aussi de cet exercice pour officialiser la création d'un bataillon de réserve opérationnel. Une unité composée de volontaires civils formés à intervenir en soutien lors de crises locales. L'armée précise qu'il ne s'agit pas d'une situation d'urgence, mais d'un entraînement planifié de longue date. Vous avez sans doute entendu parler de l'arrivée de Shein à Angers. La célèbre marque chinoise de mode à bas prix a ouvert récemment une boutique aux Galeries Lafayette. Une installation qui fait réagir dans le monde associatif. En réponse, le réseau IRESA, l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, organise sa 9e édition des Galeries Recyclettes. L'événement aura lieu le dimanche 7 décembre à la salle Athlétis des Ponts de C de 9h à 18h. L'objectif est de montrer qu'il est possible de consommer autrement. Dans un contexte où la surproduction textile et la baisse du pouvoir d'achat pèsent sur les habitudes des consommateurs. Plus de 40 exposants seront présents, créateurs locaux, ressourceries, friperies solidaires et associations écologiques. Des animations sont aussi prévues autour du réemploi, du tri des déchets et de la transition écologique. Les organisateurs rappellent que l'industrie textile représente près de 10% des émissions mondiales de CO2 et encourage chacun à privilégier la réutilisation et la fabrication locale. L'an dernier, les galeries Recyclettes avaient attiré près de 6500 visiteurs, un succès que l'IRESA espère renouveler cette année. Dans un climat marqué par les coupes budgétaires pour les associations et un sentiment de lassitude face à la fast fashion. L'entrée est à 2 euros et les restaurations sont sur place. Une belle occasion de faire ses achats de Noël autrement, en soutenant les initiatives locales.
J'ai l'info sur Radio G. Merci beaucoup Sidonie pour ce point sur ce qu'il se passe dans le département de Maine-et-Loire et puis à Angers. J'allais tenter des choses un peu poétiques, mais non, j'ai simplement vous annoncer que le Slam Poésie Club, la scène ouverte de poésie proposée par la Rature, est magique. Ça se passe au Welsh le mercredi 5 novembre. Les inscriptions sont dès 19h et le début est à 20h. Radio G et Topette et partenaire. Plus d'informations sur le compte Instagram Slam Poésie Club.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et ce soir, nous sommes avec notre invité Claire Janin. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Archiviste, évidemment, au service des archives patrimoniales de la... Enfin, je dirais évidemment, c'est pas étonnant, en tout cas, au service des archives patrimoniales de la ville d'Angers, de trouver des archivistes. Je suppose que vous n'êtes pas la seule. On va parler d'ailleurs de l'effectif tout à l'heure, du service, à quoi il sert, où est-ce qu'il est, est-ce qu'on peut le visiter ou pas. Je suppose que oui, déjà, pour répondre un peu tout seul à cette première question, puisque on commence par parler de ces vitrines d'exposition qui sont en salle de lecture des archives. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement un endroit où, derrière des vitrines bien gardées, on l'espère, vu ce qui s'est passé récemment au Louvre, on peut profiter de documents qui sont régulièrement renouvelés, comme ça, c'est tous les 4 mois à peu près. Et en ce moment, on parle des 300 ans de l'exposition nationale d'Angers qui a eu lieu il y a 300 ans.
130 ans.
Oui, 130 ans, le 1 était un petit peu parti à l'impression, et puis j'écoutais pas vraiment ce que j'étais en train de dire. Claire, est-ce qu'on peut parler déjà de ça, ce qu'il y a en ce moment aux archives municipales patrimoniales de la ville d'Angers?
Oui, alors dans notre salle de lecture des archives patrimoniales, effectivement, on dispose de quelques vitrines dans lesquelles on met en valeur les documents que l'on conserve. Et on en expose, en fait, on les modifie tous les 4 mois, donc 3 thèmes par an. Et le but, c'est vraiment de mettre en valeur nos collections donc d'archives publiques ou privées, notamment à travers les documents iconographiques. Et actuellement, on présente donc une trentaine de documents sur l'exposition nationale de 1895, donc il y a 130 ans.
Oui, j'étais à peu près tombé là-dessus tout à l'heure avec mon calcul de tête. Si on parle de cette exposition nationale d'Angers, qu'on comprenne bien parce qu'on pense spontanément quand on entend le terme à des expositions universelles, est-ce qu'on était dans le même registre ?
Tout à fait, vous avez tout compris. Alors, il faut savoir que avec la révolution industrielle, il y a eu des productions de l'industrie nombreux et dans toutes les régions de France. Et dès 1798, à Paris, a lieu la première exposition des produits de l'industrie française. Et dans cette mouvance, chaque région va vouloir aussi présenter ses propres produits locaux dans des expositions plus régionales.
C'est un petit peu comme aujourd'hui, on a des salons de l'industrie de ceci, de ce genre de choses en fait.
Tout à fait. Et donc la première a lieu en 1835 à Angers. Elle est organisée par la Société industrielle d'Angers. Et effectivement, au fur et à mesure, les expositions vont devenir internationales. Et à Londres, en 1851, a lieu la première exposition universelle, suivie de celle de Paris en 1855.
Avec le fameux Crystal Palace, il me semble, qui a inspiré les buildings ensuite dans la deuxième partie du 19e siècle à New York. C'est un autre sujet, là, on est parti très très loin. Alors à Angers, qu'est-ce qu'on peut voir comme document autour de cette exposition nationale ? Est-ce que ce sont simplement des archives papier ? Est-ce qu'il y a des objets aussi qu'on peut voir derrière ces vitrines ?
Alors, il y a essentiellement, évidemment, des documents écrits et puis surtout iconographiques, donc des documents papier. Mais on a aussi quelques objets. Par exemple, à cette occasion de l'exposition nationale d'Angers de 1895, il y a un verre souvenir qui a été édité. Donc, c'est un verre sur lequel est gravé l'entrée du bâtiment qui avait été construit pour cette exposition nationale, et donc qui est un verre souvenir. On a également les médailles commémoratives de l'exposition.
De beaux objets qui sont bien précieusement derrière les vitrines, j'imagine. On parle du bâtiment, c'était où ?
Alors, en fait, l'exposition, elle a lieu sur le Champ de Mars, qui est l'actuelle place du Général Leclerc.
Donc on avait un bâtiment éphémère, juste le temps de l'exposition nationale.
Voilà, tout à fait. Il y a un bâtiment qui est construit en bois, et puis décoré de stuc, de plâtre, de frise, enfin il a été superbement décoré. Et donc ce bâtiment, il faut imaginer un bâtiment en U, complètement fermé par un hémicycle ensuite. Donc sur le boulevard de la Mairie, il fait 102 mètres. Le long du jardin du Mail, 130 mètres. Et puis, de l'autre côté, sur ce qui est actuellement l'avenue Joffre, il fait 205 mètres.
Voilà. Alors, si je comprends bien, c'était proposé par le groupement d'industrie d'Angers, j'ai plus le terme exact.
La Société industrielle d'Angers organise les premières expositions qui ne sont pas encore appelées nationales. C'est des expositions industrielles, agricoles et artistiques. Mais ensuite, effectivement, comme ça s'internationalise et qu'on parle d'exposition internationale et universelle pour les grandes expositions organisées par les grandes villes, les villes plus moyennes vont parler d'exposition nationale, ce qui leur permet aussi d'inviter des exposants de tout le pays, en fait.
Et si je ne m'abuse, du coup, le groupement industriel en question était juste derrière le Champ de Mars, derrière le tribunal. C'est les anciennes usines Bessonneau, en fait, qui géraient cette exposition ou pas du tout ?
Non, c'est la société industrielle, c'est une sorte de société savante, enfin, un groupement une association qui était chargée de mettre en valeur l'industrie locale.
Comprends mieux. Est-ce que Mathieu ou Sidonie avaient des questions à Claire sur cette exposition ? Alors l'exposition dont on parle en 1895 ou le fait que ce soit exposé derrière les vitrines aujourd'hui, Mathieu ?
Moi qui suis féru d'histoire, je trouve ça vachement intéressant d'avoir des archives qui changent comme ça tous les 4 mois et vraiment pour montrer un petit peu la richesse du patrimoine angevin.
Est-ce qu'on sait déjà quelle sera la prochaine exposition ou on garde
oui,
ça secret ?
Oui, tout à fait. Ce sera sur les fanfares et harmonies à Angers.
Ah bah ça promet d'être musical et festif. On continue à en parler de ces expositions, de ces vitrines qui s'exposent dans la salle de lecture des archives et puis bah ces archives aussi. On fait juste une pause musicale et on revient ensemble juste après. On va jeter des boîtes avec Julien Sfer.
Là. Médicalement ne m'apaise pas. J'ai peut-être une belle blouse blanche sur moi, mais au final je sais pas ce que je fous là. J'aimais bien la chimie, l'argal, les médicaments, les soirées pharma. Mais Josiane qui me parle de son caca. Oh merde, j'ai pas signé pour ça. Une boîte de Doliprane, ça fait 2,18€. Ton max s'est fait la malle, en fait je m'en fous de ta vie. Les douleurs abdominales, fallait pas taper des huîtres. Fallait pas taper des huîtres. Mamie me ramène un sac rempli. Apparemment y'a plus de papy. Merci madame, je vais faire le tri. Pas dans le tri, c'est interdit. Alors je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette, jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette, jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette, jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes. Je crois que j'ai pas donné le bon dosage. Au pire, je dirais que j'étais en stage. Madame faisait vraiment son âge. En plus, j'aimais pas son maquillage. Ça fera gagner quelques thunes à l'état. 1000 balles de traitement, c'est toujours ça. De toute façon, je crois qu'elle le prend pas. Encore des boîtes qu'elle nous ramènera. Tu veux plus de médoc? Bah faudra payer. T'as la carte vitale, tu crois t'es illimité. Quoi, tu me plains encore et tu veux te barrer? Bah ta carte cassée, tu sais, encore un sac plein. Un sac qu'on me ramène, c'est le 20ème sac. Même pas une semaine, y'en a des millions pour qui ça pourrait changer la vie. Et si tu veux mon avis, ils s'en tapent ici. Et moi je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes. Je jette des boîtes, je jette des boîtes. Je jette des boîtes.
Je jette des boîtes de Julien Sfer sur le 101.5 FM de Radio G.
Lopette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Dans quelques instants, on sera avec Mathieu pour la chronique de Let's Game. J'aurais presque envie de dire à Julien Sfer qu'on vient d'écouter que plutôt que de jeter ses boîtes, il pourrait les donner au service des archives patrimoniales de la ville d'Angers, puisque nous sommes avec Claire Janin, archiviste à ce service-là, justement. On évoquait les vitrines, les expositions de certains documents, certains objets, artefacts, je sais pas si c'est le bon terme, tous les 4 mois. Là, on était sur l'exposition nationale d'Angers de 1895. La prochaine, ce sera sur les fanfares et les harmonies de la ville, c'est ça, Claire?
Parfait, oui.
Et on voulait aussi parler ensemble du site internet, puisque ça, c'est la question que j'ai en fait. C'est est-ce qu'on peut se rendre sur place, découvrir les archives, y avoir accès, toucher les documents soi-même ou être accompagné de quelqu'un ou pas du tout?
Non, bien sûr. Comme on a dit, les vitrines sont dans la salle de lecture, et donc c'est une salle qui est accessible au public. Et on peut venir consulter des documents sur place s'ils sont consultables, parce que certains ont des délais, par exemple, qui concernent la vie privée ou les secrets médicaux, donc ils ne sont pas consultables immédiatement. Mais d'autres documents peuvent être consultés par tout à chacun. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Voilà.
Et donc, se laver les mains, de porter des gants peut-être?
Non, mais non, on porte pas de gants. Pour des documents classiques, vous voyez. Ça, c'est surtout dans les films.
Par exemple, Monsieur Bertoldi nous avait parlé de la pyramide du lac de Maine avec des premiers plans, les esquisses de plans pour la construction. Ça veut dire que ces documents, ils sont là-bas, au service des archives. Est-ce qu'on peut les consulter, ceux-là, par exemple?
Alors, oui, s'ils sont dans des dossiers, on va pouvoir les consulter. Si ils sont pas justement numérisés sur notre et accessibles sur notre site internet, on va pouvoir consulter certains plans, certains dossiers tout dossier qui est consultable selon les délais.
Bon, ça c'est pour les puristes, les plus férus d'histoire peut-être, qui veulent avoir le papier. C'est comme les personnes qui écoutent la musique en streaming et les autres qui veulent aussi avoir le support physique, le vinyle ou le compact disque, comme nous disions dans les années 90-2000. Mais sinon, il y a le site internet du coup pour consulter ces archives. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on trouve toutes les archives qui sont là-bas, même des photos, des objets qui sont conservés?
On trouve plusieurs types de documents. Les documents qui sont très consultés, comme l'état civil, les recensements de population, les listes électorales qui servent à faire de la à compléter les recherches généalogiques en fait. Et ces documents étant très consultés, on les numérise, ce qui permet de les retirer de la consultation physique et donc de les protéger, d'assurer leur meilleure conservation. Et également, bien entendu, le fait, ça les met à disposition de tout à chacun, depuis partout dans le monde et à toute heure de la journée. Contrairement à notre salle de lecture qui est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h. Ça multiplie les possibilités de consultation.
Donc l'état civil, c'est ça qui est le plus consulté, j'ai l'impression, sur le site internet.
Oui, ça fait partie vraiment des documents extrêmement consultés, puisqu'il y a quand même beaucoup de généalogistes en France. C'est une passion française, la généalogie.
Alors, la flèche du temps ne cesse de progresser dans les airs, dans le ciel. Du coup, on a toujours l'histoire qui avance, les archives qui se créent quasiment à l'instant T. Hein, dès qu'on a créé un document, finalement, il devient immédiatement une archive ou en devenir.
Tout à fait.
On enrichit régulièrement, on le met à jour, ce site internet ?
Oui, on le met à jour, et notamment les délibérations du conseil municipal qui sont prises chaque mois viennent régulièrement enrichir le site internet, puisqu'elles sont consultables depuis le conseil de ville, les premières délibérations de 1475 jusqu'à celle de 2024, on va dire.
Oui, parce qu'il me semble, si je suis pas trop mauvais dans l'histoire d'Angers, que Angers est une des premières municipalités du Royaume de France. À l'époque, on parle de 1400, je crois historiquement que ça doit être quelque chose comme ça.
Ouais, et les villes du Nord ont également eu des chartes très tôt dans l'histoire.
Bon, ce sera à vérifier justement, voilà, en se baladant sur le site internet des archives de la ville, les archives patrimoniales de la ville d'Angers. On parlait des dates, juste qu'on comprenne bien, parce que j'ai l'impression que c'est immédiat, mais est-ce qu'on peut consulter immédiatement ou pas ? On parlait du secret des choses un peu médicales. C'est quoi une archive ? Est-ce qu'il y a un délai ? Est-ce que c'est 40, 50 ans ?
Non, normalement, toute archive est communicable, sauf justement délai pour protéger certains secrets, et notamment la vie privée, qui est un délai de 50 ans. Et par exemple, un dossier de personnel, un dossier d'enfant placé, ça va être 50 ans après la clôture du dossier. Par contre, pour l'état civil, il y a des délais qui peuvent être plus importants pour protéger les origines familiales, et un acte de naissance ne peut pas être consulté avant 75 ans, sauf par la personne qui est citée dans l'acte.
La personne, voilà, en question, ouais, effectivement.
Par contre, les décès, c'est consultable ou immédiatement.
Ah oui, donc on pourrait consulter l'acte de décès d'une personne, mais si elle avait moins de 75 ans, on ne pourra pas consulter son acte de naissance,
voilà,
avant,
d'accord, avant 75 ans.
On comprend, c'est un peu technique, administratif. Sidonie, est-ce que tu as des questions sur les archives, sur le fait de pouvoir consulter en ligne comme ça ? Est-ce que toi-même, tu as fait peut-être ton arbre généalogique, je ne sais pas ?
Non, mais j'ai de la famille qui l'a fait, oui. Et justement, je ne savais pas que c'était ouvert à tous comme ça pendant la semaine. Du coup, je vais sûrement pouvoir y aller pour donner un peu plus d'ampleur à mes prochaines brèves.
Attention, parce que c'est que sur la ville, la commune d'Angers. Hein,
voilà, tout à fait. Nous conservons des archives sur la ville d'Angers. Donc, l'évolution de l'urbanisme, effectivement, ça peut être des recherches familiales ou tout autre thème qui concerne la ville d'Angers.
Voir comment la ville était il y a quelques années de ça. Ouais, Claire, j'ai une question maintenant. Comment on devient archiviste ? Pourquoi on devient archiviste ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans votre comportement quotidien de conserver les documents ? Ou alors, voilà, il y a le côté professionnel, personnel. Qu'est-ce qui motive à faire exercer cette profession ?
Je pense que, avant tout, on aime l'histoire et on a envie de passer le patrimoine, de participer à la conservation et au passage de témoins, si vous voulez, de ce patrimoine écrit. C'est toucher toutes les, moi ce que j'aime bien, c'est toucher toutes les petites histoires de gens quotidiens, j'allais dire aussi, et aussi de personnalités angevines. Plus que, autant que la grande histoire, finalement, c'est de découvrir plein de petites histoires.
Et est-ce que vous, Claire, justement, il y a une archive, un document, un objet que, alors, soit au sein du service des archives patrimoniales de la ville d'Angers ou dans votre collection personnelle qui vous a marqué, ou alors un souvenir assez prégnant en lien, une connexion avec cet objet? Oui, il y en a plusieurs, peut-être, ou un domaine, précisément, que ce soit des plans de la ville, ou les cartes, ou enfin les états civils.
Alors là, vous me prenez un peu de pourvu.
Donc ça veut dire que tout vous intéresse finalement.
Oui, c'est vrai que je m'intéresse à tous les domaines, vous voyez, tous les thèmes qu'on traite pour nos vitrines participent en fait à notre connaissance personnelle et nous touchent. Et nous touche.
Alors, il y a peut-être un domaine, une thématique que vous ne collectionnez peut-être pas dans vos archives et que lui fait, Mathieu, ce sont les jeux vidéo et les consoles. Voilà, faut penser à les garder, hein, parce que quand on essaie de retrouver aujourd'hui des Game Boy pas color, mais celles qu'il y avait encore avant, voilà, on aimerait bien tomber et mettre la main dessus. Je suis prêt à parier qu'il en a, lui, dans sa bibliothèque. On écoute tout de suite la chronique de Let's Game avec toi, Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Et bonsoir à toutes et à tous. Alors en effet, puisqu'on est dans les archives, justement, on va essayer d'y rester un petit peu parce que je vais vous raconter de manière réduite l'histoire des jeux vidéo depuis leur création jusqu'à aujourd'hui. Depuis que je suis là et que je fais des chroniques, on parle de prévention, on parle de sexisme, mais depuis quand les jeux vidéo existent? Quelles ont été leurs évolutions? Et comment est-ce qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui? Vraie question. Donc du coup, pour tout ça, je vais avoir besoin de plusieurs épisodes pour qu'on raconte un petit peu toute cette histoire. Et de tout ça également, j'aimerais ton intervention, Pierre-Benoît, sur certaines petites questions. Première petite question, Pierre-Benoît. Quelle est la date de création du premier jeu vidéo?
Eh ben, figure-toi que j'ai peut-être des éléments de réponse. J'aurais tendance à dire que c'est déjà à la fin de la guerre. Je crois même que c'est en lien avec l'histoire de Sega, non?
Alors, en lien avec l'histoire de Sega, pas tout à fait, mais en effet, ouais. Alors, un peu après la guerre, puisqu'on est dans les années 50, plus exactement en 1952, avec la création d'un premier morpion informatique. Morpion, c'est le OXO, le truc avec les ronds et les croix qu'on doit aligner. Et j'en avais déjà très courtement parlé dans des émissions précédentes, mais ça a été créé dans des universités à la base, parce que c'était des universités spécialisées dans l'informatique. Et l'ancêtre de Pong débarque, lui, en 1958. Seconde question, Pierre-Benoît. À ton avis, où les jeux vidéo ont-ils vu le jour? Dans quel pays?
Bah alors, tu parlais d'université, donc j'ai tendance à penser que c'est aux États-Unis.
Eh bah, tout à fait, exactement. C'est aux États-Unis. Et si on pousse un petit peu plus loin dans la chronologie, on arrive en 1962 avec Space War, un jeu vidéo dans lequel on incarnait un petit vaisseau. Et du coup, encore une fois, toujours montré seulement dans le cadre universitaire. Mais du coup, quand est-ce que sont vraiment démocratisés les jeux vidéo? On se pose la question maintenant. Ça commence dans les années 70 avec l'arrivée des fameuses
Atari,
bornes arcade.
Bornes arcade, c'est
vrai. On va trop vite. Qui chez certains évoqueront des souvenirs d'enfance, tandis que pour d'autres, je les vois déjà en train de chercher sur internet savoir à quoi ressemblait une borne arcade. Mais également dans les années 70, les consoles commencent à envahir nos salons, et comme tu viens très bien de le dire, avec notamment
l'Atari
2600, exactement. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à une société qui actuellement est encore dans le marché et qui était quasiment dès le début.
Non, l'autre. Tu me dis quand j'arrête d'intervenir.
Il n'y a pas de souci. Non, il s'agit de Nintendo. Alors, à ton avis, quand est-ce qu'ils sont arrivés sur le marché? Et petite question supplémentaire, qu'est-ce qu'ils faisaient avant les jeux vidéo?
Bah, j'ai la réponse, mais du coup, je vais te laisser quand même le plaisir du suspense.
Et bah ouais, avant d'arriver dans les jeux vidéo, Nintendo était spécialisé dans les cartes à jouer, notamment dans un jeu appelé Hanafuda. Plus tard, ils reviendront avec l'arrivée des petits monstres de poche qu'on appelle les Pokémon, les fameuses cartes qu'on connaît tous. Mais nous éloignons du sujet. Donc Nintendo sentant quand même un bon filon déjà dans les années 70, bon, ils n'ont pas toujours le nez fin, mais on y reviendra plus tard, commercialise quelques jeux vidéo, dont notamment un petit bonhomme qui devait sauter par-dessus des tonneaux, appelé à l'époque Jumpman, que nous connaissons actuellement comme un plombier moustachu du nom de Mario, qui se marie et ils commercialisent leur première vraiment console en 1985. Et à ton avis, Pierre-Benoît, est-ce que tu sais pourquoi Mario avait une casquette?
Parce qu'il avait du soleil.
Eh bien, figure-toi que presque, mais pas tout à fait quand même. Non, c'est qu'à l'époque, créer des pixels pour faire les cheveux, c'était extrêmement compliqué. Alors, pour faire plus simple, ils lui ont mis une casquette sur la tête, comme ça facilitait le problème. Et tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, donc je vais pas passer à la cinquième question, qui était le plus grand concurrent de Nintendo à cette époque-là.
Sega.
On en revient à Sega, parce que Sega, c'est plus fort que toi. Ils sont arrivés même un tout petit peu avant Nintendo, vraiment sur le marché des consoles du salon, en 1983, avec leur succès notamment lié à la Master System. Malgré tous les efforts qu'ils ont pu faire, ils n'arriveront jamais à rattraper Nintendo dans la course des ventes des consoles. En effet, les licences iconiques que sont Mario, Zelda, Kirby, Metroid, et on pourra en citer encore tout un tas d'autres, ont toujours très largement surplombé le petit et récent de chez Sega. En conclusion de cet épisode, le jeu vidéo a connu un très fort essor depuis sa création de 1952 jusqu'en 83, date du crash du jeu vidéo. En commençant dans les universités, en passant par les cybercafés, les bornes arcades, et pour finir dans nos salons, le jeu vidéo en l'espace de 30 ans, a été chamboulé. Les grandes marques connues à l'époque, que sont Atari, Nintendo et Sega, sont toutes parvenues à se faire une place dans cet univers. Nous savons tous ce qu'il en est actuellement, mais je vous raconterai la suite au prochain épisode.
Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique de Let's Game sur l'histoire, donc qui n'est pas finie, j'ai cru comprendre, du jeu vidéo. On aura certainement, comme tu le dis, la suite au prochain épisode. On fait une nouvelle pause musicale et on revient ensemble juste après. Mettez les mots dans le bon ordre et vous aurez la phrase que je voulais dire. À l'écoute de Topette sur le 101.5 FM, on va se mettre une petite virgule sympathique.
Topette avec Pierre Benoît.
Je vais même mettre le générique de fin puisque l'émission touche à sa fin. Tout à l'heure, on va se quitter avec Pensée Locale, le programme commun des radios associatives, parce qu'il en reste en Pays de la Loire, malgré les coupes budgétaires et puis le péril qui guette en tous sens. Mais ça, c'est un autre débat. On essaiera d'en parler avec le délégué régional du SNRL, le syndicat des radios libres en France, tout simplement. Mais avant tout ça, pour conclure cette émission, on est avec Claire Janin, tout le temps, archiviste du service des archives patrimoniales de la ville d'Angers, pour bien cibler, parce qu'il y a aussi le service du département, je crois, Claire.
Oui, tout à fait, les archives départementales qui ont conservé la mémoire du département.
Autres bâtiments, autres locaux, autres services.
Autres bâtiments, oui, tout à fait.
Autres archives également.
Oui.
Même s'il y a peut-être des ponts, des fois, entre...
Oui, tout à fait, il y a des ponts, mais ils peuvent aussi conserver d'ailleurs des documents sur Angers, puisque le conseil départemental et la préfecture ont aussi des compétences sur la ville d'Angers, dans certains domaines.
Bon, décidément, il doit y avoir énormément de choses à découvrir. Alors, on a parlé des vitrines d'exposition dans la salle de lecture du service des archives de la ville d'Angers. On a parlé aussi du site internet, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Claire, on se l'est dit hors antenne, donc micro ouvert.
Oui, je voulais rajouter que, en plus des documents écrits, donc qui servent à faire notamment la généalogie et des recherches historiques, vous pouvez vous promener sur notre site pour découvrir nos documents iconographiques et voir Angers en images, en cartes et en plans. On a plus de 25 000 photos, par exemple, autour notamment de la collection de Robert Brisset, qui avait fait 16 000 photos. Dans les années 60 à 80.
Un Angevin lambda.
Un Angevin, voilà.
Qui photographiait son temps.
Tout à fait, qui a photographié avec ses amis toutes les transformations d'Angers. Dans les années 60 à 80, il y en a énormément. Hein. Beaucoup de quartiers sont en construction ou sont rénovés. On a aussi plus de 4000 cartes et plans, 8000 affiches, presque 6000 cartes postales. Donc vous pouvez vraiment... vous balader dans l'urbanisme, les rues d'Angers, les fêtes d'Angers, les événements et tous les changements urbains.
La vie ici d'avant, comme on ne la soupçonne pas des fois.
Voilà, tout à fait.
Se faire une autre idée de ce qu'a pu être l'endroit dans lequel on vit. Merci beaucoup Claire d'être passée dans Topette ce soir. Alors le site internet qu'on donne quand même des archives patrimoniales.
archive.angers.fr.
Archive au pluriel, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Angers au pluriel aussi, puisqu'il y a un S. Et oui, pourquoi ? Parce que ça, les noms des villes désignaient en fait les peuples qui habitaient. Bon, bref, ça, c'est un. Vous irez sur Wikipédia vous renseigner. 130 ans, il y a 130 ans, 1895, l'exposition nationale d'Angers. C'est à découvrir derrière les vitrines, dans la salle de lecture, jusqu'à quand, Claire, encore ?
Jusqu'au 31 janvier 2026 et il y a deux visites commentées d'organiser le jeudi 20 novembre et le mardi 16 décembre à 17h.
Et ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir.
Merci à vous.
On se verra peut-être en salle de lecture là-bas pour discuter autour d'un document, déplier une vieille carte. J'ai l'impression que ça t'aime bien ça, t'es un historien dans l'âme aussi Mathieu, je te vois qui essaie depuis tout à l'heure.
Ah bah moi c'est surtout l'histoire du jeu vidéo puisque c'est deux passions qui se rejoignent, mais oui en effet ça peut être très intéressant.
Deux passions Sidonie que tu découvres.
Oui, tout à fait.
Voilà, jeu vidéo, tu connais Atari ?
Jeux vidéo, Atari non.
Borne d'arcade ?
Oui, ça je connais.
Ok. Et parce qu'on est avec des enfants en fait à ramener du monde, et Mathieu, on va juste leur laisser passer le micro, tu leur donnes le micro. Bonjour Eden, voilà, tu peux dire Topette, on va se quitter. Tu peux dire Topette. Topette. Alors Télio, pareil, tu prends le micro, tu parles très près du micro, tu dis Topette.
Topette.
Topette. Et puis Axel également, qui peut dire Topette. Merci d'avoir assisté à l'émission.
Topette.
Et puis nous, on se dit à 18h10 demain. Prenez soin de vous, on sera avec les Folies Angevines à demain. Et on se quitte avec Pensée Locale. Topette.
Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Installée aux Sorinières près de Nantes depuis janvier 2025, la ferme bio Java est plus qu'une ferme maraîchère. Portée par trois associés, Amélie, Timothée et Léon, Java est pensée comme un lieu de vie et de partage. Entre vente de plants, ateliers pédagogiques et guinguettes estivales, Java propose en effet de nombreux événements ouverts au public visant à créer du lien et sensibiliser chacun et chacune sur les enjeux liés à l'activité maraîchère et ce qui est mis dans notre assiette. Pour en savoir plus sur leur démarche, Prune est allée planter ses micros au cœur de leur serre en verre. Entre les carottes et les pommes de terre, nous avons eu droit à une petite visite, l'occasion de mieux comprendre ce que ça signifie être une ferme maraîchère et festive.
Bonjour. Bienvenue à Java.
Timothée, Tim, 31 ans et associé à Java.
Ferme maraîchère aux Sorinières. Là, on se situe plus précisément dans la serre, notre serre en verre de 3000 m2 où on cultive cette année notre production de légumes. On a aussi une partie plein champ, mais cette année, on fait que production dans la serre. Tu fais quoi, Léon, là ?
Ben là, je récolte les patates pour la vente de mercredi.
Hop là.
Je suis Léon, je suis le troisième associé de Java. Ah, Java, comment définir ? Oh ben, je pense que c'est trois rigolos qui sont décidés à faire du maraîchage et qui font ça sérieusement.
Mais t'inquiète, j'ai regardé quand je t'ai vu, mais c'est bon.
Tiens, on va pouvoir checker l'irrig.
Ah oui. Une serre typique du maraîchage nantais. Donc c'est une serre assez basse de plafond, tout en verre. Il y a un peu tout dans la serre, c'est à la fois un lieu de travail de production, mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut se poser pour faire des réunions, pour manger, pour faire des petites siestes. Ouais, il y a une belle lumière, c'est une période de l'année assez chouette, là, la fin d'été, début d'automne, parce qu'on a quand même encore la lumière un peu estivale de l'été qui est là, le soleil est encore un petit peu haut, alors il l'est moins, mais il reste encore un peu haut. Donc ouais, c'est chouette là.
Quand ces annexes sont trop fermées.
Ça, c'est pas mal. J'ai l'impression
qu'elles sont trop ouvertes,
là, devant. Tu vois qu'il n'y a pas assez... Tu vois qu'elles sont
trop ouvertes.
Amélie ?
Ouais ?
Qu'est-ce que tu fais ?
Ben là, on est en train de remettre une bâche. Amélie, je suis nantaise et je suis maraîchère au sein de l'association du collectif Java.
On essaie de tendre des bâches pour couvrir les précédentes cultures. Là, c'était des pommes de terre.
Nous, notre objectif, c'est de faire venir les gens à la ferme sur différents aspects, via différentes activités. On peut adorer faire un peu la fête dans un cadre bucolique et auquel cas on va venir à la guinguette l'été. Mais on peut aussi vouloir des légumes. Donc l'idée, c'était de pouvoir vendre nos légumes aux gens à côté et sur des activités comme la vente de plants, par exemple, qui peut attirer des gens d'un peu plus loin, de faire venir les gens à la ferme. Puisque un des ateliers qu'on va mettre en place, plus développé les années à venir, c'est les ateliers pédagogiques. Et ça, pour le coup, ça peut parler aux Nantais aussi directement, puisqu'on n'est vraiment pas très loin, en bus, en vélo, ou un petit coup de voiture, et on est chez nous. Moi aussi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est de visibiliser le métier de paysan ou paysanne, parce que on les rencontre pas souvent, ce qui est normal. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant, via des biais, à nouveau, de vente de plants, de guinguettes, enfin, en fait, de près ou de loin par rapport au végétal. Bah, si les gens, ils ont mis un pied chez nous, même si c'est pour faire la fête, ils se sont rendus compte que, il y avait des activités culturelles et sympas qu'on pouvait faire à côté. Et puis, en fait, il y a peut-être une petite graine, voilà, sans mauvais jeu de mots, qui va aussi être mise dans leur tête pour se dire comment demain je consomme mieux, en tout cas par rapport aux légumes, qui est important, en effet, dans chaque repas, normalement.
Et du coup, cette planche-là, c'est... une planche qui illustre bien le principe de l'association, parce que sur une même planche, en gros, on va avoir 5 rangs. Et sur ces rangs-là, on va avoir un rang de carottes, un rang de mâches, un rang de carottes, un rang de carottes, un rang de mâches.
Donc on est, nous, sur une méthode qu'on appelle bio-intensive. Intensive dans le côté, on a un petit espace et on va faire plein d'associations de légumes. Donc il y a des associations en fait qui sont mises en place pour avoir un maximum de légumes. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des légumes toute l'année à part Noël et que les gens puissent y trouver de tout.
C'est joli.
On est donc non mécanisé et nous étant trois et parce qu'on fait justement une vente de plants, on fait tous nos plants de A à Z. Donc ça, c'est une partie aussi de notre quotidien, de faire ce qu'on appelle la pépinière, de vérifier que tout va bien, que tout le monde a suffisamment d'eau et voilà.
là, typiquement, ce qu'on peut faire en pépinière, c'est quand on voit qu'une plaque est un peu sèche, genre là, typiquement, on a une plaque de roquette qui est un petit peu sèche, et ce qu'on fait, du coup, tout simplement, on la prend et puis on va la mettre dans notre petite piscine.
Donc ça, c'est notre modèle, on va dire, agricole. Et puis après, on a justement un atelier un peu annexe, la guinguette estivale, qui l'année prochaine démarra en juin, sur globalement 4 mois, avec des ouvertures récurrentes pour que les gens puissent venir faire un peu la fête chez nous.
Là, on est arrivé sur l'espace guinguette, donc qui est juste à côté de la serre et du plein champ. Et il y a un joli panneau qui a été fait par le frère de Amédie, qui a peint sur de la tôle qu'on avait récupérée, notre logo Java, avec marqué Bienvenue à Java, ferme maraîchère et festive, qui est le nom de notre ferme.
C'est une question assez récurrente qu'on a, de dire mais Java, pourquoi vous appelez Java? Et déjà on a créé du lien avec la personne finalement. Java, ça vient d'une réflexion où on s'était dit, on a plein d'activités dans notre projet qui n'est pas juste liée à la production agricole, enfin il y a toujours un lien, hein. Et l'idée c'était de ne pas forcément s'appeler la ferme de, les jardins de, on voulait un truc qui sorte du côté agricole quand même, et donc qui incarne aussi un truc positif, sympa. On a trouvé Java, auquel on a pu trouver un acronyme qu'on a finalement vite laissé tomber parce que c'était un peu lourd, mais qui était jardin accueillant, vivrier et autonome, qui reflète quand même nos valeurs, mais d'un point de vue communication, on l'a mis de côté, et en fait on s'appelle Java. Ferme maraîchère et festive, où l'idée c'est que les gens comprennent qu'on fait a priori du légume et un truc en lien avec la fête, et ils peuvent nous suivre sur les réseaux pour savoir tout ce qu'on fait parce qu'on communique beaucoup dessus. Mais voilà d'où vient le nom. Donc chacun y voit ce qu'il veut, mais en tout cas ça fait un peu parler, donc finalement c'est pas plus mal.
Ouais, nous on voulait quelque chose d'assez festif, joyeux, coloré.
C'est vraiment très gratifiant d'être ancré sur son territoire et de pas faire, à nouveau c'est en lien avec la visibilité, mais de pas faire son petit travail un peu ingrat de souris de son côté et sortir de sa cave une fois qu'on doit vendre quelques légumes. Enfin, moi je trouve que c'est hyper appréciable d'avoir les gens qui viennent à la serre, et puis on voit que les gens sont... Les gens qui sont venus qui viennent à la vente de plants sont venus à la guinguette. Après, il y a parfois des profils qui sont intéressés que pour la vente de plants ou que pour la guinguette, mais c'est pas gênant en fait.
En fait, on est tous arrivés avec cette volonté de créer du lien avec plein de types de personnes différentes et via des activités différentes, quoi. On s'est retrouvés dans cette envie-là de, au-delà de produire des légumes, de faire vivre ce lieu et d'être acteur et actrice de notre territoire via ces activités-là.
Ah oui, pardon.
Bonjour. Un truc à se baisser.
Pour en savoir plus sur les activités de Java, ferme maraîchère et festive, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Le prochain atelier pédagogique Ramène ta fraise aura notamment lieu le samedi 15 novembre prochain. Sur inscription, les ateliers s'adressent aux petits et grands pour être incollables sur l'itinéraire de la fraise.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage réalisé par Julie Judet pour Prune.
Morgen weer een nieuwe dag, een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag.
Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan?
Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn.
Is dat nou liefde?
Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet.
Maar wie is dan de baas van de wereld?
Alles wat leeft op de wereld.
Maar minste praat over een man uit Amerika, die aan het vechten is met mensen uit een ander land.
omdat die denken dat het beste is voor alle man. Iedereen die is een beetje baas.
Onze papa zegt de blanke.
Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Sla en doe je ogen toe.
Want je
weet dat je nu gaan dromen moet.
En je
ziet alles en je hart doet pijn.
Maar
jouw leven doet niet hard te zijn.
Dus kind,
sla en doe je ogen toe.
Want je
weet dat je nu gaan dromen moet.
En je
ziet alles en je hart doet pijn.
Maar
jouw leven doet niet hard te zijn.
Slaap, kindje, slaap, de buiten dan loopt de slaap. En morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat. Mama die is mijn papa, gaan eten bij de Chinees. En dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees.
Waarom hebben papa en mama altijd ruzie met elkaar?
Het is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar. Je vriendje Kees die heeft geen eens een pa, die is dood.
Maar waarom gaan mensen dood?
Nou ja, dan gaan gewoon zo. Net als Vera, Amika, al je tantes zijn weg.
Maar waar gaan ze dan naartoe?
Gewoon een andere plek. Kerel, jij vecht niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood.
Maar Robin zegt de ene man is dood, dus iemand anders brood.
Dat is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden, die gingen naar een ander land en stolen al het eten. Dus die mannen werden rijk, maar de bewoners van het land. Oh, trouwens, ga jij maar slapen nu gewoon, mijn kleine man.
Sla en doe je ogen toe,
want je
weet dat je nu gaan dromen moet.
En je
ziet alles en je hart doet pijn.
Maar
jouw leven doet niet hard te zijn.
Dus kind,
sla en doe je ogen toe,
want je
weet dat je nu gaan dromen moet.
En je
ziet alles en je hart doet pijn.
Maar
jouw leven doet niet hard te zijn.
Zwak, daarom zitten ze toch thuis.
Nee, dat zeggen zwakke mannen, maar dat is dus echt niet juist. En kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw. En mama koos voor ons, terwijl ze ook nog best wel werken wou. En iedereen en alles op de wereld is gelijk. Maar vroeger was er ook een man die alles overnam. Maar kijk, zei dat joden minder waren. Ze mochten niet meer blijven. En dat is de reden waarom man de boeken is gaan schrijven. Doe nu je ogen dicht en slaap maar zacht.
Alleen, als ik nog één dingetje vragen mag.
Wat?
Waarom hebben sommige mensen...
Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux... Pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux. Ici et dans ma tombe. Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe.
C'est garanti son style. Un paquet dans ma poche. J'arriverai bien à temps. Où sont passés mes proches? Je traîne mes pompes en avant. À gauche ils baratinent. À droite ils ont plus de cœur. On dirait un bal de mort. Une danse de mauvais goût. Des bouches sur une tétine. Le dollar l'air en fou. Je veux pas jouer dans cette cour. Funambule dans l'arène. Accroche-toi si tu le peux. Demande pas de rendez-vous.
Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux. Pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux.
Je sais bien que tu trouves ça triste. Mais moi je vois dans tes yeux. La route tourne dans le vide.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis.
Le vide tourne comme une roue.
Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne.
Accroche-toi si tu le peux. Tes rêves en ce voyou. Plus vite qu'une Ferrari. Plus loin qu'une belle villa. Un jour on se dira tout. Et on verra que c'est rien. La vie pour rendez-vous. Un beau cœur clarifié. Et c'est à peu près tout.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe. Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe, je sais ce que je veux. Dans le fond, c'est vivre encore. Je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Que la mort vienne quand je dors. FM.